Ah, bonjour à toutes, bonjour à tous. On reprend donc le cycle des prédications sur le thème de l'année, les premiers dimanches du mois. Le premier dimanche du mois précédent, on avait deux baptêmes. Du coup, le pasteur Sylvain qui devait prêcher sur le thème de l'année a proposé de le décaler au dernier dimanche. Donc c'est ce qu'il a fait dimanche passé. Et donc moi je reprends donc en début de ce mois de novembre la prédication sur le thème, et donc on le fera comme d'habitude tous les premiers dimanches du mois. Le frère Simon est monté au caté, donc il m'a demandé de conclure le culte à la fin de la prédication. Je conclurai donc le culte à la fin de la prédication. Le thème de cette année, le frère Simon l'a rappelé, extrait de l'épître de Paul aux Colossiens: vous avez tout pleinement en Christ. Nous avons vu le mois passé, donc dimanche passé du reste, comment l'apôtre Paul prie pour les Colossiens afin que Dieu leur fasse connaître pleinement sa volonté en donnant par son Esprit Saint une entière sagesse et un parfait discernement. On a vu dimanche dernier comment Paul invite dans sa prière les Colossiens à vivre d'une manière digne du Seigneur et à se comporter d'une manière qui lui plaise. Aujourd'hui, nous allons lire Colossiens chapitre 1. On va commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Donc Colossiens chapitre 1. Verset 12 jusqu'au verset 23. Je lis dans la version du semeur. Donc le verset 12 est un peu la suite de la prière. Il dit: vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurez dans la foi, fermement établie sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures, sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Amen. Dans la suite de sa prière que le pasteur Sylvain a commenté dimanche dernier, l'apôtre Paul, au verset 12, dit que si sa prière est exaucée, et il n'en doute pas, si Dieu donne aux Colossiens la sagesse, la foi par son esprit, alors vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Vous lui direz merci, parce que ce Père, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, cet héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Dieu nous rend héritiers, héritiers de son royaume. C'est ce qu'il dit par la suite au verset 13. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. En Christ, nous passons des ténèbres à la lumière. En Christ, nous passons de l'esclavage du péché à un statut d'héritier du royaume de Dieu. Et tout cela, l'apôtre Paul veut faire bien comprendre que c'est Dieu qui l'accomplit. Aussi, vous exprimerez votre reconnaissance à Dieu. Mais si Dieu l'accomplit, c'est à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, Paul fixe sa pensée sur Jésus. Et ensuite, là, nous avons, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, dans pas mal de Bibles, c'est écrit en italique ou c'est écrit différemment des autres textes. Nous avons là, probablement, dans toute la révélation biblique, le texte le plus dense. Il m'est impossible de commenter un tel texte en 30 minutes, frères et sœurs. Nous avons là, dans ces versets, probablement les affirmations les plus glorieuses concernant le Christ. Il faut s'en imprégner. Ce n'est pas des choses qu'on commente comme ça. C'est des choses qu'il faut recevoir comme une gloire qui apparaît devant nous. Pas moins de 15 affirmations concernant le Christ, ce Fils de Dieu. Et je vais les passer en revue pour que nous prenions conscience de qui est ce Jésus dont Paul parle. Verset 14. En lui, la rédemption, le pardon des péchés. Verset 15, il est l'image de Dieu. Verset 15, il est le premier-né de la création. Verset 16, en lui, toutes choses ont été créées, les visibles, les invisibles. Verset 16, Dieu a créé tout par lui. Verset 16, Dieu a créé tout pour lui. Verset 17, il est avant toutes choses. Verset 17, toutes choses subsistent en lui. Verset 18, il est la tête du corps qui est l'Église. Verset 18, il est le commencement. Verset 18, il est le premier-né d'entre les morts. Verset 18, il a le premier rang en toutes choses. Verset 19, en lui réside toute la plénitude. Verset 20, il a réconcilié l'univers tout entier avec Dieu. Et enfin, encore le verset 20, il a instauré la paix par son sang versé sur la croix. La foi chrétienne a un centre. Voyez, c'est-à-dire que si on dit qu'on devient chrétien pour bien se comporter, il y a plein de philosophies dans le monde qui permettent de bien se comporter. Si on dit qu'on devient chrétien pour s'enrichir, alors là, il y a tellement de choses dans le monde pour s'enrichir. Si on dit qu'on devient chrétien pour bien se sentir, à notre époque, est-ce besoin de les compter? Tellement de choses qui peuvent nous aider à bien nous sentir. Si on dit qu'on devient chrétien pour telle ou telle raison autre que celle qui consiste à connaître Christ, alors nous nous éloignons de l'évangile. pas moins de 15 affirmations sur ce que est ce fils. On peut regrouper ces affirmations en trois groupes. Le premier groupe, c'est le rapport de Christ à Dieu. Le rapport de Christ à Dieu. Paul d'affirmer que ce Jésus est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir, mais lui, il est l'image de ce Dieu invisible. Toute la plénitude habite en lui. Paul de préciser encore mieux au chapitre 2, au verset 9, toute la plénitude divine habite en lui. On peut lire 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 5, verset 20. C'est à la toute fin de la Bible, à la toute fin de l'épître de Jean. 1 Jean 5, verset 20, il est dit, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. » Ce Jésus est venu pour que nous connaissions Dieu, parce qu'en lui, il y a toute la plénitude de Dieu. Et nul ne peut connaître Dieu sans passer par le Christ. Et l'apôtre Jean de poursuivre, « Aussi nous sommes unis au Dieu véritable. » De par notre union à son Fils Jésus-Christ, nous sommes unis au Dieu véritable. Et cette phrase, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Tous ceux qui contestent la divinité de Christ ont traduit de bien des manières ce verset qui est clair pour celui qui est honnête avec la Bible. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable. Toute la plénitude divine habite en lui. Et ensuite, Paul dit pas mal de choses concernant le rapport de Christ à la création, à l'univers tout entier. On peut le résumer ainsi, en reprenant ses formules à lui. Toutes choses ont été créées en lui. Toutes choses ont été créées par lui. Et toutes choses ont été créées pour lui. Des fois, ce n'est pas toujours facile à comprendre ces épîtres. On s'est dit, mais dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Toutes choses ont été créées en lui. Ce n'est pas juste comme un agent qui a créé toutes choses comme ça, mais c'est-à-dire c'est en lui. La puissance créatrice même, la puissance de création vient de lui. Jésus lui-même a dit, en Dieu est la vie. Et en moi aussi est la vie. Toutes choses ont été créées en lui. Toutes choses ont été créées par lui. C'est lui qui crée. C'est Dieu qui crée. Mais à travers son Fils. Et toutes choses ont été créées pour lui. Pour sa gloire. Le but de toutes choses est de glorifier Christ. Le chrétien peut être impressionné par les découvertes scientifiques, par les merveilles de ce monde. Bien de choses que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons probablement jamais. Mais nous savons quel est le but de toutes choses. Tout a été créé pour Christ, pour sa gloire. Une fois qu'on dit ça, Paul précise que même les autorités, les puissances ténébreuses ont aussi été créées en lui, par lui et pour lui. Et là, ça nous chatouille un peu. Oh ! Que nous n'ayons pas de doute. Toutes choses ont été créées en Christ, par Christ et pour Christ. Lisons à nouveau dans 1 Jean, mais cette fois-ci le chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 et 16. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Mais alors, est-ce que toutes choses viennent du Père? Voyez, c'est des textes qui, quand on s'assoit, qu'on les médite, qu'on essaie de comprendre, on y rencontre des farouches difficultés. Pourtant, le texte qu'on a lu est clair. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Mais tout le mal que nous voyons de ce monde, dans ce monde, ne vient pas de Dieu ni de Christ. Ce mal que nous voyons dans ce monde vient de tout ce qu'il a créé lui, mais qui s'est détourné de lui. Aussi, le péché, le mot péché lui-même, le péché et le mal ne viennent pas de Dieu, mais le péché et le mal sont selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est par opposition à Dieu qu'on sait que c'est péché et que c'est mal. Si on appelle péché, péché, c'est par rapport à Dieu. Ce qui est péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est mal, c'est ce qui est rebelle contre Dieu. Mais l'apôtre Paul de préciser que toute chose subsiste en lui. Sans la puissance de Christ, rien ne subsisterait dans ce monde, ni sur la terre, ni dans le ciel. Même la vie du petit oiseau dans la forêt de l'Amazonie, il respire, il tient vie à cause de Christ. On considère l'immensité de l'univers, les étoiles, les planètes. Qu'est-ce qui les fait tourner? D'où viennent ces phénomènes scientifiques? Tout cela vient de Christ. Le rapport de Christ à Dieu, le rapport de Christ à la création et enfin le rapport de Christ à son Église. L'apôtre Paul de déclarer, il est le chef du corps qui est l'Église. Par ce verset, il entérine l'autorité de Jésus sur son Église. Il entérine aussi l'unité de l'Église. Tous les rachetés par le sang de Jésus, formant un seul corps. Donc Christ est la tête. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né de cette nouvelle création. Il est le premier-né en ce qui il est mort, il est ressuscité pour l'éternité dans un corps incorruptible. Et à sa suite, tous ceux qui ont mis leur foi en lui suivront le même chemin. Ils ressusciteront pour être avec lui pour l'éternité. Il est le premier-né parce qu'à sa suite, tous les élus, tous les rachetés seront aussi comme lui, auprès de lui, unis en lui. Le chef du corps de l'Église, le premier-né d'entre les morts. Et après cet hymne, ce chant à la gloire de Christ, à partir du verset 21, Paul se tourne à nouveau vers les Colossiens et leur dit, « Vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ennemis. Vous étiez sous la colère de Dieu. » Mais en Christ, par sa mort à la croix, par son sacrifice, vous êtes réconciliés avec Dieu par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain. Mais Paul de nous prévenir. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Il ne s'agit pas, chers Colossiens, de vous dire, ah, mon statut a changé, j'étais esclave, je suis désormais héritier avec Christ, je suis réconcilié avec Dieu, et prendre cela comme prétexte pour se détourner justement de ce Jésus qui vous a donné ce salut. Non, il le dit, encore faut-il que vous veilliez à demeurer ferme dans le Seigneur. Et il dit en conclusion, cet évangile que vous avez reçu, qui vous a donné cette espérance, qui a changé votre statut, qui a enlevé cette colère de Dieu qui pesait sur vous, qui vous a réconcilié avec Dieu, cet évangile, j'en suis, moi, Paul, le serviteur. Existe-t-il un titre plus glorieux que de servir ce Christ dont il a présenté de manière si magistrale la suprématie? Oui, le texte de ce jour nous montre bien que nous avons tout pleinement en Christ. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons avoir plus. Nous ne pouvons avoir plus. Personne ne peut nous donner plus que ce que Christ peut nous donner. En lui sont toutes choses. Par lui sont toutes choses. Pour lui sont toutes choses. Aussi la vie que tu mènes, son but, c'est la gloire de Christ. Le jour viendra où devant lui, toute notre vie sera passée au crible. Toutes les grandes choses que nous aurons accomplies ou pas partiront en fumée. Ce qui restera sera, qu'est-ce que tu as fait de moi? Et là, tu comprendras que le but de ta vie était pour Christ. Toutes choses sont par lui, pour lui et en lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier la personne de Christ et son œuvre. La vie du chrétien baigne dans le Seigneur. Ce texte nous interpelle et nous interroge sur qu'est-ce qui est pour moi le plus important dans ma vie? Qu'est-ce qui m'impressionne le plus? Qu'est-ce qui m'attire le plus? Qu'est-ce qui m'émerveille le plus? Ou dans le sens inverse, qu'est-ce qui m'angoisse le plus? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Même les autorités, les puissances sataniques ont été créées pour Christ. Et le jour viendra où nos yeux verront que Christ est Seigneur sur toutes choses. Il ne faut pas que le chrétien soit dans la séduction des choses de ce monde, ni dans la peur des choses de ce monde. Parce que le Christ en qui nous mettons notre confiance, ce Christ est suprême sur toute chose. Il est l'image du Dieu véritable. Il est lui-même le Dieu authentique. Nous savons que cette vérité que nous proclamons est celle que le monde refuse. Nous pouvons nous accorder sur plein de choses. Mais pour ce qui est de la place unique de Christ, Dieu fait chair, tout de suite, les chemins se séparent. Gare à toi, gare à toi. Ne te laisse pas séduire par les beaux discours. Nous avons toutes choses pleinement en Christ. Il est l'unique image de Dieu. Dans tout ce que tu penses, que ce soit pour la gloire de Christ. Dans tout ce que tu dis, que ce soit pour la gloire de Christ. Dans tout ce que tu fais, que ce soit pour la gloire de Christ. Parce que c'est dans ce but qu'il t'a créé. En lui, par lui et pour lui ont été créées toutes choses. Notre vie n'a aucun sens. Notre vie n'a aucun sens si elle est séparée de celui pour qui elle a été créée. Cela nous permet de mettre les choses à leur bonne place, d'accorder les bonnes priorités. Jésus recherche des chrétiens christocentriques. Ça veut dire quoi ce mot compliqué? Des chrétiens, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, enfants, qui reçoivent le Christ tel qu'il est décrit dans ces textes. Pas quelqu'un qui va guérir mes maladies seulement. Quelqu'un qui va me permettre de ne pas trop chômer. Quelqu'un qui me permet de trouver un mari qui soit fidèle, une bonne femme qui soit bien. Pas quelqu'un qui va donner à mes enfants une bonne éducation. Tout ça, oui, c'est vrai. Recherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses seront données par-dessus. Le chrétien authentique, c'est celui qui voit Christ tel qu'il est défini dans ce texte. Toute cette semaine, je t'invite à réfléchir et à donner ton adoration à Dieu et à Jésus-Christ, tel que c'est décrit dans ce texte. Tu verras toi-même ce que le Saint-Esprit inspire dans ton cœur. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous permettre de louer Jésus tel que c'est fait dans ce genre de texte-là. Il est tout. Je tourne à droite, il est là. À gauche, il est là. Devant, il est là. Derrière, il est là. Au travail, il est là. À la maison, il est là. Dans mes finances, il est là. Et sa présence me réjouit. Sa présence me console. Parce que j'ai tout pleinement en lui. Nous sommes dans un monde mauvais où beaucoup d'églises prêchent le contraire. Frères et sœurs, une seule vérité sauve. Une seule, un seul médiateur, Jésus-Christ. Tout le reste passe. Nous avons tout pleinement en Christ, c'est le thème de l'année. Ma prière, c'est que cela soit véritable dans notre vie. Que vraiment Christ soit tout pour nous. Nous connaissons la suprématie de sa divinité, parce que nous le recevons comme Dieu. Nous connaissons la suprématie de son amour et de sa grâce parce qu'il est venu dans la création, prendre sa place dans la création comme un être humain, marcher à la tête du peuple qu'il rachète. Nous connaissons la suprématie de sa colère et de son jugement et nous le redoutons plus que tout parce qu'un jour, assis sur son trône, Matthieu chapitre 25, il fera le tri définitif, à droite et à gauche. Et c'est tout, point final. Nous savons qu'il est le seul à qui Dieu a remis ce jugement. Satan et, je ne sais pas, les démons, les sorciers peuvent faire tout ce qu'ils veulent de mon corps. Mais rien ne pourra m'arracher de l'amour de Christ. Parce que c'est lui seul qui a le dernier mot. Amen. Voici ce que Paul veut qu'on comprenne dans ce texte. Pourquoi vous laissez effrayer par les autorités, les puissances? Pourquoi vous laissez séduire par des sagesses, des mystiques, des occultes? Pourquoi? Tu as toutes choses pleinement en Christ. Il est le seul à résoudre le vrai problème que tu as. Sans la foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit que la colère de Dieu demeure sur toi. Rien ni personne ne peut l'enlever, si ce n'est le sang de Jésus et Jésus seul qui a coulé à la croix. Frères et sœurs, le texte que nous lisons aujourd'hui, c'est fait pour nous réveiller. Le monde d'aujourd'hui nous endort, et moi-même le premier, dans bien des soucis, bien des tracas. Cette nuit, j'ai même mal dormi. Je pensais à mon fils aîné qui passe par une période un peu compliquée. Mais quand je lis ce texte, je me dis, Seigneur, je ne marche pas tout seul dans ce monde. Je ne marche pas tout seul dans ce monde. Et auprès de qui je peux me sentir mieux que celui en qui, par qui et pour qui toutes choses ont été créées? Que cela nous fortifie. Nous avons le Dieu authentique. Il nous donne toutes choses pleinement en lui. Je vais prier. Seigneur, le texte que nous méditons aujourd'hui est une hymne, une adoration, une louange. Nous avons chanté tellement de beaux chants aujourd'hui. La croix seule me suffit. Alléluia au Christ Jésus. L'Éternel est mon berger. Seigneur, nous ne voulons pas chanter cette hymne comme un chant quelconque, mais nous voulons vraiment t'apporter l'adoration Parce que en effet, tu es digne, digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Toi, le Dieu véritable, tu es venu jusqu'à nous. Quelle merveille! Dans ce monde déchu, tu es venu. Tu es venu pour sauver ce qui était perdu. Seigneur, nous ne pouvons rien trouver de mieux qu'en toi. Nous ne voulons rien trouver de mieux qu'en toi. Mais Seigneur, tu vois nos cœurs des fois durs. Aussi, nous prions que ce soit ton Saint-Esprit qui fasse briller ta lumière en nous. Nous avons besoin de ton aide plus que jamais. Christ me suffit. Parce qu'en Christ, j'ai pleinement ce qu'il me faut. La délivrance, la protection, l'amour fidèle, ton aide, tes compassions renouvelées chaque jour. Mais surtout, l'assurance, Seigneur, que tu me gardes jusqu'au bout. Fais naître en nous cette espérance authentique. Donne-nous de recevoir l'Évangile. Fais de nous des serviteurs de cet Évangile, que nous aussi, nous puissions faire connaître combien la suprématie de Jésus-Christ est grande. Que dans ce monde où les chrétiens sont persécutés, on pense à nos frères d'Algérie, nous puissions proclamer, oui, notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, le Dieu authentique. Il est celui en qui et par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Il est le maître de l'univers. Et si des fois nous pleurons encore pour bien des souffrances, ô Seigneur, nous sommes consolés. Nous sommes consolés en ce que, oui, nos vies sont entre les mains de ce Christ suprême. Nos vies sont gardées entre les mains de ce Christ suprême. Seigneur, vraiment, nous voulons faire de toi notre trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Nous voulons faire de toi notre trésor. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton Saint-Esprit se répande afin de nous faire voir ta gloire, afin de nous faire connaître ta gloire. Que notre héritage céleste soit pour nous ce qui a le plus de prix plutôt que nos luttes d'ici-bas. Oui, Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment bon, tu es infiniment puissant. Ô Seigneur, que rien ne vienne ternir ton éclat dans ma vie. Que rien ne vienne ternir ton éclat dans notre vie, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de toi. Que ton Église réponde, Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens à nous, Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous. Passez un très bon dimanche, une très bonne semaine. Et rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant, pour continuer à nous nourrir de la parole de ce Christ. Bonne semaine à tous.